Chapitre 34. En route pour Salidar. Egwen se lava le visage, deux fois, puis elle sortit ses sacoches de sel d'un coffre et les remplit. Son peigne d'ivoire, sa brosse, son miroir et son nécessaire à couture, un coffret qui avait dû jadis contenir les bijoux d'une dame, vinrent accompagner un pain de savon blanc parfumé à la rose, du linge de rechange et une infinité d'autres choses. Jusqu'à ce que le cuir menace d'exploser et qu'il ait du mal à boucler les rabats. Plusieurs robes et capes, sans oublier un châle à ailes, composèrent un joli baluchon qu'elle ferma avec de la ficelle. Ensuite, Egwen regarda autour d'elle en quête de ce qu'elle pouvait bien vouloir encore emporter. Tout était à elle, même la tente, puisqu'on la lui avait donnée, mais ça aurait été un peu lourd et encombrant, comme les tapis et les coussins. Idem pour les coffres, même si certains étaient vraiment très beaux. Alors qu'elle réfléchissait à ses futilités, Egwen s'avisa qu'elle tentait d'échapper à la phase la plus éprouvante de ses préparatifs.
« Courage !» dit-elle. « Le cœur d'une aïeule !»
Tant qu'on ne répugnait pas à sauter sur une jambe tandis qu'on s'occupait de l'autre, il se révéla parfaitement possible d'enfiler les bas sans s'asseoir. Vinrent ensuite une douce chemise de soie blanche, une jupe d'équitation vert foncé, assez serrée à la taille et sur les hanches pour rappeler à la jeune femme qu'elle n'aurait pas plaisir à s'asseoir avant un bon moment, et enfin de solides chaussures qui seraient parfaites si elle devait marcher longtemps. Sortir aurait été absurde. Beyre et Amis devaient être sous leur tente, mais elle ne voulait pas risquer que l'une d'elles la voie procéder. Ce serait revenu à les gifler. Si ça fonctionnait, tant mieux. Sinon, elle avait devant elle une très longue chevauchée. En se frottant nerveusement les mains, Egwen s'unit au Saïdar et le laissa se déverser en elle. Puis elle sauta d'un pied sur l'autre. Le Saïdar exacerbait la conscience qu'on avait de tout, y compris de son propre corps, qu'elle aurait volontiers oublié dans les circonstances présentes. Tenter une manœuvre que nulle avant elle n'avait osée aurait dû lui imposer une certaine prudence, en général synonyme de lenteur. Pour une fois pressée d'être coupée de la source, Egwen canalisa brusquement les flux d'esprit et les tissa avec la même vivacité. Un rideau de brume lui cacha la paroi opposée de la tente. Si elle n'avait pas commis d'erreur, elle venait de créer un point où l'intérieur de sa tempe était si semblable à son reflet, dans le monde des rêves, qu'il n'y avait plus l'ombre d'une différence, l'un étant devenu l'autre. Mais il n'y avait qu'une façon de s'en assurer. Egwen posa les sacoches de sel sur son épaule, glissa le baluchon sous son bras et traversa son tissage. Puis elle se sépara du Saïdar. Elle était entrée en Tel Aranriod. Un seul détail suffit pour qu'elle en soit sûre. Les lampes qui étaient allumées dans le monde éveillé ne brûlaient plus, et il y avait quand même de la lumière. De plus, les objets fluctuaient légèrement quand on les regardait de nouveau après avoir tourné la tête. Elle était entrée dans le monde des rêves en chair et en os. Bizarrement, c'était la même chose que lorsqu'elle y venait en rêve. Sortant de la tente, Egwen constata qu'une lune gibbeuse brillait dans le ciel au-dessus d'une version onirique de Kairienne qui semblait étrangement lointaine et enveloppée d'ombre. Bien, à présent, restait à gagner Salidar. En réfléchissant au problème, la jeune femme avait conclu que tout dépendrait du contrôle qu'elle aurait sur le monde des rêves alors qu'elle n'en faisait pas vraiment partie. Faisant apparaître dans son esprit l'image de ce qu'elle voulait trouver, Egwen passa derrière la tente et sourit. Bella était là. La petite jument à long poil qu'elle chevauchait en quittant deux rivières, une éternité plus tôt. Une Bella onirique, bien entendu, mais qui secoua la tête et hennit doucement en voyant son ancienne maîtresse. Egwen lâcha ses bagages et jeta les bras autour de l'encolure de la jument.
« Je suis également contente de te revoir »,
souffla-t-elle. Rêve ou non, les yeux noirs qui la regardaient étaient bien ceux de Bella. La selle à haut trousquin imaginée par Egwen était là aussi. En principe, il n'y avait rien de plus confortable pour un long voyage, mais on pouvait rêver plus mou. Étudiant la selle, la jeune femme se demanda à quoi elle ressemblerait une fois rembourrée. Puis elle eut une idée. En Tel Aranriod, on pouvait tout modifier si on savait y faire, y compris soi-même. Si elle avait eu assez de contrôle pour générer Bella alors qu'elle était là en chair et en os, Egwen se concentra sur les parties meurtries de son corps. Puis elle sourit, mit en place le baluchon et les sacoches derrière la selle, enfourcha Bella et s'installa très confortablement.
Ce n'est pas de la triche,
dit-elle à la jument.
Ces femmes n'escomptaient quand même pas que je chevauche jusqu'à Salidar avec le postérieur en feu.
Eh bien, si on y réfléchissait, c'était possible, mais, cœur d'Aïel ou non, il y avait des limites.
Bella, je dois faire le plus vite possible, alors s'il te plaît, galope à la vitesse du vent.
Avant qu'Egwen ait pu sourire de cette métaphore, Bella, si rondelette, galopait à la vitesse du vent, la jument lui obéit à la lettre. Des deux côtés, le paysage se brouilla et la cavalière dut s'accrocher à sa selle, bouche bée de stupéfaction. Chaque foulée de la jument semblait avaler une lieue. Après la première, Egwen eut une fraction de seconde pour s'apercevoir qu'elles étaient sur la berge, au-dessous de la ville, devant la rivière où des bateaux mouillaient sous les rayons blafards de la lune. Et alors qu'elle allait tirer sur les rênes pour empêcher Bella de se jeter à l'eau, une nouvelle foulée les emporta dans les collines, bien au-delà de l'onde. Egwen renversa la tête en arrière et rit aux éclats. C'était extraordinaire. N'était-elle impression visuelle, elle n'avait guère de sensation de vitesse. Ses cheveux ondulaient bien au vent, mais pas violemment. Plutôt comme si une douce brise les caressait. Et l'allure de Bella ressemblait au trot plutôt lourdeau dont elle se souvenait. Mais la succession en cascade des paysages avait quelque chose d'exaltant. D'abord une rue de village obscure et déserte, puis une piste qui sinuait entre des collines, puis une plaine avec de l'herbe presque aussi haute que les épaules de Bella. Tout ça en une poignée de secondes. Egwen marqua quelques rares pauses pour s'orienter. Grâce à la fantastique carte qu'elle avait mémorisée, celle qu'avait créée l'homonyme de Siouan, cette opération ne lui posa aucun problème. Sinon, elle laissa Bella trotter à son rythme, les villages et les villes apparaissant et disparaissant à la vitesse de l'éclair. À un moment, Egwen fut sûre d'avoir vu Kemlin, ses murs d'un blanc argenté brillant dans la nuit, et un peu plus tard, dans un paysage de collines boisées, la tête et les épaules d'une grande statue à part ça enfouie dans la terre, un vestige de quelque royaume oublié, apparut si brusquement sur un flanc de Bella que sa jeune cavalière faillit en crier de surprise. Elle l'aurait probablement fait si l'immense visage usé par les intempéries et les siècles n'avait pas disparu avant qu'elle ait eu le temps de finir d'ouvrir la bouche. Entre deux bonds de géant de la jument, la lune ne se déplaçait pas d'un pouce dans le ciel, et elle n'avait presque pas bougé depuis le début du voyage. Un jour ou deux pour atteindre Salidar, c'était bien ce qu'avait dit Shiriam. Et ça prouvait que les matriarches avaient raison. À force que tout le monde les croit omniscientes, les Aes Sedai avaient fini par se convaincre qu'elles l'étaient. Eh bien, ce soir, Egwen allait leur démontrer le contraire. Et selon toute probabilité, ça n'ébranlerait pas leur tranquille certitude d'être infaillible. Quand elle fut certaine d'être en Altara, et bien au-delà de la frontière, Egwen tira plus souvent sur les rênes de Bella afin qu'elle fasse de plus petits bonds. Elle chevaucha même de temps en temps à un rythme normal, surtout en passant près d'un village. Parfois, l'enseigne de la principale auberge, quand il y en avait plusieurs, indiquait le nom de la localité. L'auberge de Marella, par exemple, ou celle de la source de Lyonine. Ajoutée à celle qui brillait en permanence dans le monde des rêves, la lumière de la lune permettait de lire très facilement ses inscriptions. Egwen se situa ainsi de mieux en mieux par rapport à Salidar. Du coup, elle avança par plus petits bonds encore, puis finit le voyage en traversant au trot réel une forêt où de grands arbres avaient réussi à tuer la plus grande partie de la végétation, la sécheresse se chargeant du reste. La voyageuse fut quand même surprise quand un village d'assez grande taille se dressa soudain devant elle, obscur et silencieux au clair de lune. Si incroyable que ça puisse paraître, elle était arrivée. À la lisière des maisons de pierre au toit de chaume, Egwen mit pied à terre et récupéra ses bagages. Même à cette heure tardive, il devait y avoir des gens encore debout dans le monde éveillé. Inutile de les effrayer en déboulant comme un démon qui sort de sa boîte. Si elle tombait sur une Aes Sedai qui ne la connaissait pas, elle risquait fort de n'avoir jamais l'occasion de se présenter devant le hall.
« Tu as vraiment été aussi rapide que le vent !»
dit Egwen à Bella en lui passant une dernière fois les bras autour de l'encolure.
« J'aimerais pouvoir te garder avec moi. »
Une déclaration d'intention et rien de plus. Rien de ce qui avait été créé en Tel Aran Riod ne pouvait exister ailleurs. Et cette bête, à dire vrai, n'était pas exactement Bella. Même ainsi, Egwen eut un pincement au cœur quand elle se détourna de la jument, sans cesser d'imaginer son existence afin qu'elle soit là le plus longtemps possible, et entreprit de tisser son rideau de brume fluctuant. Un rideau d'esprit en réalité, qu'elle traversa la tête haute, prête à affronter ce qu'il y aurait derrière avec le cœur d'une aïeule. Après un pas, elle s'arrêta et poussa un petit cri de douleur. Dans le monde réel, les altérations qu'elle avait apportées à sa personne n'existaient pas davantage que Bella. En d'autres termes, toute la partie arrière de son corps lui fit de nouveau un mal de chien. Aussitôt, elle crut entendre Sorilea lui tenir un petit discours.
« Si tu fais ce qu'il faut pour assumer ton taux, puis que tu t'arranges pour supprimer les conséquences de la punition, crois-tu vraiment avoir agi comme il le fallait ? Souffre et souviens-toi que tu as un cœur d'Aiel. »
Oui, elle ne l'oublierait pas. Que les Aes Sedai le sachent ou non, elle était là pour livrer une bataille. Pour affirmer son droit à être un jour une sœur, et pour affronter... Affronter quoi au nom de la lumière ? Il y avait bien quelques personnes dans les rues où les rares fenêtres éclairées des maisons évoquaient des îlots de lumière. D'une démarche nettement chaloupée, Egwene approcha d'une femme très mince vêtue d'un tablier blanc.
« Excusez-moi, »
dit-elle à l'inconnu à l'air épuisé.
« Je suis Egwene Alvere, une acceptée, et je viens d'arriver. »
La femme jeta un regard intrigué à la robe d'équitation de son interlocutrice.
« Pouvez-vous me dire où je trouverai Shariam Sedai ? Il faut que je lui parle d'urgence. »
Selon toute probabilité, Shariam dormait déjà, mais dans ce cas, Egwene n'hésiterait pas à la tirer du lit. On lui avait dit de venir le plus vite possible. Et elle entendait bien montrer qu'elle avait obéi.
« Tout le monde s'en remet à moi, »
marmonna la femme.
« Les gens ne peuvent-ils pas se débrouiller seuls ? Non. Il faut que Nildra leur mâche le travail. Et les acceptés sont la pire plaie de toutes. Bon, je n'ai pas la nuit devant moi. Suivez-moi si vous le voulez bien. Et si vous ne le voulez pas, trouvez Shargam toute seule. »
Nildra se mit en chemin sans même jeter un regard derrière elle. Et Gwen lui emboîta le pas en silence. Si elle avait dit le fond de sa pensée, et si elle parlait, ça risquait fort de se produire, son séjour à Salidar aurait commencé sous de bien désagréables augures. Même s'il risquait d'être court, ça n'était pas une raison. Plus que jamais, il allait falloir que son cœur d'Aiel et son esprit de Deux-Rivières consentent à collaborer. Le trajet ne fut pas long. Après avoir tourné dans une rue latérale, puis passé devant quelques maisons d'où montaient des échos de rire, Nildra s'arrêta devant une demeure silencieuse, mais dont une des fenêtres était encore éclairée. Après avoir frappé à la porte, l'irascible guide entra sans attendre de réponse. Puis elle se fendit d'une révérence rapide et parla d'un ton un peu plus respectueux que d'habitude.
« Aes Sedai, cette fille dit s'appeler Egwene et elle... »
Nildra ne put jamais terminer sa phrase. Les sept sœurs présentes dans le cœur de la pierre étaient là, aucune ne semblant prête à aller se coucher, même si toutes, sauf l'homonyme de Siouan, étaient en robe de chambre. À voir la façon dont leurs chaises étaient disposées, Egwene venait d'interrompre une conversation. Shariam fut la première à se lever.
« Déjà là, mon enfant ?»
lança-t-elle en faisant signe à Nildra de se retirer. Personne ne prêta attention à la révérence de la malheureuse, ni à son soupir agacé.
« Nous ne t'attendions pas si tôt, »
dit Anaya en prenant le bras d'Egwene. Elle eut un sourire chaleureux.
« Bienvenue, mon enfant, bienvenue. »
« Tu n'as pas souffert d'effets désagréables ?»
demanda Morvryn. Elle ne s'était pas levée, à l'instar de Carlinia et de la jeune Aes Sedai, mais elle se penchait en avant sur son siège. Toutes les robes de chambre des sœurs étaient en soie brodées ou brochées, à part celle de Morvryn, un modèle ordinaire en laine marron, mais qui semblait néanmoins confortable.
« Depuis cette expérience, te sens-tu différente ?»
insista Morvryn.
« Nous nous sommes demandé comment tu allais faire. » Et pour être franche, nous doutions fort de ton succès.
Il faudra que nous ayons une démonstration pour mieux comprendre comment ça fonctionne,
dit Béonine. Elle but un peu d'infusion, puis posa sur un guéridon sa tasse et sa soucoupe mal assortie. Tous les meubles allaient mal ensemble, et la plupart étaient aussi bancals que le guéridon.
S'il y a des effets désagréables, nous la guérirons, et voilà tout.
Et Gwen s'écarta d'Anaya et posa ses bagages près de la porte.
Franchement, je vais très bien.
Dit-elle. Elle aurait pu mentir, et dans ce cas, Anaya l'aurait peut-être guérie sans qu'elle ait à demander. Mais vis-à-vis des Aiel, ça aurait été de la triche.
Elle a l'air en bonne forme,
dit Carlinia. Elle avait vraiment les cheveux courts. Donc, il ne s'agissait pas d'une altération réservée au monde des rêves. Bien entendu, elle portait du blanc. Même ses broderies l'étaient.
Si nécessaire, nous demanderons à une sœur jaune de l'examiner plus tard.
Laissez donc là arriver!
S'écria joyeusement Mireille. Sa robe imprimée comptait tant de fleurs rouges et blanches qu'on n'apercevait presque plus le fond vert.
Enfin, elle a parcouru près de 1000 lieues en une nuit. Non, en quelques heures. Vous n'avez pas le temps de la laisser souffler.
intervint la jeune Aes Sedai. Avec sa robe jaune au bas rayé de bleu et au col large brodé de la même couleur, Siouan ne semblait pas du tout à sa place dans cette assemblée. D'autant plus qu'elle était la seule du lot à qui on put donner un âge.
« Dès le matin, le hall va lui fondre dessus. Et si elle n'est pas prête, Romanda la videra comme une carpe bien cassouillette. »
Et Gwen en resta bouche bée. La voix était encore plus évocatrice que les métaphores à base de poisson.
« Vous êtes Siouan Sanche ? Non, c'est impossible !»« Pas du tout, pas du tout. »
marmonna Anaya avec un regard accablé pour la jeune sœur.
« Siouan est redevenue une sœur, »
soupira Mirelle. Ce devait être vrai, puisque ces femmes le disaient. Mais Egwen eut du mal à y croire, même quand Sheriam l'expliqua tout. Ninevé avait guéri des femmes calmées? Et si Siouan n'avait pas l'air plus vieille que l'ancienne sage-dame, c'était justement parce qu'elle avait été calmée? Siouan avait toujours eu l'air d'une cheftaine au cœur de pierre, et voilà qu'elle ressemblait à une jolie jeune fille à la bouche presque délicate. Pendant le discours de Sheriam, Egwen étudia Siouan. Les yeux bleus n'avaient pas changé. Quand on avait croisé une fois ce regard glacial, on ne pouvait plus jamais l'oublier. Donc l'affaire semblait entendue. Mais Siouan Sanche avait toujours été puissante dans le pouvoir. Quand une fille était au début de sa carrière, il fallait l'évaluer pour estimer quelle serait un jour sa force. Mais chez une Aes Sedai, le potentiel était réalisé. Assez formée pour juger en un clin d'œil du niveau d'une femme, Egwen aurait dit que Sheriam était la plus puissante, après elle, suivie de très près par Mirelle. Toutes les autres se valaient, à l'exception de Siouan, nettement en retrait.
« C'est la plus remarquable découverte de Ninevé, »
dit Mirelle.
« Les sœurs jaunes ont repris sa méthode et réussi leur propre miracle. Mais c'est elle qui a fait le premier pas. Assieds-toi, petite. L'histoire est trop longue pour qu'on l'écoute en restant debout. Je serai mieux debout, merci, »
répondit Egwen. Un seul coup d'œil sur la chaise sans rembourrage que désignait Mirelle la fit frissonner.
« Comment va Elaine ? Elle se porte bien ? Je veux avoir de leurs nouvelles à toutes les deux. »
Les découvertes remarquables de Ninevé, il y en avait donc plus d'une ? Durant son séjour chez les matriarches, Egwen semble avoir pris du retard, et elle allait devoir cravacher dur. Si on l'y autorisait, ce qu'elle croyait à présent, car on ne l'aurait pas accueillie si chaleureusement pour lui annoncer ensuite qu'elle était en disgrâce. Depuis son arrivée, elle ne s'était pas inclinée une seule fois, et elle n'avait appelé personne Aes Sedai avec l'humilité requise. Et personne ne lui avait fait la morale. Bien sûr, c'était involontaire, parce qu'on ne lui en avait pas laissé l'occasion, mais tout de même. Les sœurs n'étaient peut-être pas informées de son crime, et dans ce cas, pourquoi cette convocation?
Si on nommait quelques difficultés passagères avec des chaudrons, tes amis...
commença Sheriam. Siouan lui coupa la parole sans cérémonie.
Pourquoi toutes ces jacasseries? Il est trop tard pour reculer. Vous avez lancé cette affaire et il faut aller jusqu'au bout. Sinon, Romanda vous pendra dehors pour vous faire sécher au soleil en compagnie de cette fille. Et Delana, Faisel et les autres représentantes l'aideront à bien tendre votre peau.
Sheriam et Mirelle se tournèrent presque en même temps vers Siouan. Les quatre autres sœurs les imitèrent, le regard aussi glacial que celui de leurs deux collègues. Siouan releva d'abord le défi avec l'impassibilité d'une Aes Sedai blanchie sous le harnais. Puis elle inclina légèrement la tête, rosit un peu et se leva de sa chaise.
« Mes paroles ont dépassé ma pensée, »
dit-elle. Alors que les Aes Sedai semblèrent passer à côté de ce détail, Egwen remarqua que le regard de Siouan n'avait pas changé d'un iota. Cela dit, s'excuser ainsi ne lui ressemblait pas. Egwen s'avisa qu'elle ne comprenait absolument rien à ce qui se passait devant ses yeux. Siouan Sanche docile comme un agneau? Bon, elle ne semblait pas avoir le choix, mais ce n'était pas le plus important. Quelle affaire était lancée? Et si ces femmes faisaient marche arrière, pourquoi Egwen aurait-elle dû sécher au soleil avec elles? Les Aes Sedai échangèrent des regards impénétrables, comme il se devait entre sœurs. Morvryn fut la première à hocher la tête.
« Egwen, nous t'avons convoqué pour une raison très particulière, »
dit Sheriam. Le cœur de la jeune femme battit la chamade. Les sœurs ne savaient rien à son sujet. Rien du tout. Mais alors... que se passait-il?
Tu seras bientôt élevé au statut de chère Damirline,
acheva Sheriam.